pourrait partir évidemment directement de l'Évangile ou des Actes des Apôtres, il y a tellement de choses à accueillir ensemble. Et nous devons simplement, nous commençons peut-être par la fin de l'Évangile où nous assistons à une séparation qui suscite la joie. C'est que les disciples ont bien compris à ce moment-là que l'invisibilité de Jésus ne pouvait pas déranger pas, mais au contraire une plus grande proximité, une intimité. Cette intimité dans leur cœur, c'est la paix, la joie qui leur était donnée. Je sais bien que dans une homélie, on pourra faire un grand panorama. En même temps, l'ascension, me semble-t-il, s'inscrit dans le projet de Dieu. La venue de Jésus parmi nous, sa passion, sa résurrection, la Pentecôte. Je voudrais ce matin, sans être trop long, mais peut-être un petit peu plus long que d'habitude, reprendre avec vous, si vous êtes d'accord, peut-être ce panorama. Et ça veut bien situer l'ascension dans eh bien, les faits que nous avons vécus ces derniers temps, les dernières semaines. Il y a, je le disais, l'entrée, on retient ça peut-être l'abaissement de Jésus. Et dans cet abaissement, eh bien, le Père l'a saisi et il l'a relevé. Et pour comprendre cela, nous regardons Dieu en lui-même, quelques instants. Le mystère de Dieu, c'est un mystère de désistement. Chacun dit à son tour, le Père et le Fils, non pas moi d'abord, mais toi d'abord. Et ça commence par la source, bien sûr, qui est le Père. Quand on regarde et qu'on regarde le mystère qu'il est le plus profond, on pourrait dire son cœur, qu'est-ce qu'on trouve dans le cœur du Père au plus profond? L'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, c'est le secret du Père. C'est le plus profond, c'est ce qui est caché en lui. Mais en même temps, c'est une force d'amour et donc qui pousse le Père à donner. L'Esprit Saint dans le cœur du Père pousse le Père à se donner. Alors le Père donne, mais comme c'est le Père, que c'est Dieu, nous ne comprenons pas, nous sommes dépassés, il se donne entièrement. Et quand le Père se donne entièrement, il fait exister face à lui, en vis-à-vis, quelqu'un évidemment qui lui ressemble comme deux couteaux, un fils. Le fils ressemble au Père, il a tout reçu du Père. Voilà, il y a deux, donc dans cet Esprit Saint, nous voyons que la seule chose que le Père sait faire, on connaît bien mes mots, hein, c'est d'engendrer son fils. Tous les autres mystères sont compris dans celui-là. Dans l'Esprit Saint, le Père, depuis toujours, engendre son Fils. Il est celui qui donne et se donne. Et le Fils qui lui est semblable est quand même différent. Parce que le Fils, dans cette facette de l'amour qui est un échange, représente celui qui reçoit. Jésus est heureux, dans une joie voilà, inégalable, d'être dans une dépendance d'amour par rapport au Père. Nous, c'est difficile de recevoir. Et de se recevoir. Mais Jésus, en Dieu, non, c'est l'inverse. Dans le Fils, c'est l'inverse. Voilà, nous voyons donc, on projette un petit peu le regard sur Jésus, sur le Fils qui deviendra Jésus dans quelques instants, et nous comprenons qu'en lui, il y a une réceptivité totale au don du Père. Jésus n'a rien, il n'est rien, il ne se reçoit que du Père. Donc c'est un mystère de désistement, de réceptivité, de faire place à l'autre qui caractérise et le Père et Jésus. On ne va pas rentrer dans le détail, mais dans le débordement de son amour, Dieu crée le monde, l'humanité. Son projet, c'est que chaque humain, l'humanité, ensemble, soit reprise un jour dans cet échange entre le Père et le Fils, que nous devions semblables à lui. Mais voilà que deux obstacles majeurs s'opposent à ce projet de lui. Le premier, c'est qu'il faudra quand même que l'infinité de Dieu, de son amour, réside dans un cœur humain. Le lien, le vôtre, à un moment donné. Comment est-ce possible? Est-ce possible? Et puis le deuxième obstacle majeur, c'est que l'humanité n'a pas compris à refuser. On appelle le péché. Voilà, c'est ce refus d'humanité. Nos péchés ne sont jamais que la monnaie de ce refus primordial. primordial parce que c'est l'humanité dans son ensemble qu'on appelle Adam qui a refusé ce projet de Dieu. Nous comprenons en même temps, nous recueillons cet élément, que Dieu respecte notre liberté, comme il respecte la liberté en lui-même. Il n'y aurait pas d'amour d'échange sans cette liberté. Dieu veut dire en amour et dans l'impossibilité de nous forcer d'intervenir, de forcer que son projet soit accueilli. Ça, c'est une contradiction. Alors, est-ce l'échec? Est-ce que Dieu n'est pas tout puissant? Il est tout puissant. Et dans l'amour, au temps venu, il fera aboutir son projet. Mais en retournant le mal, en le portant, en l'annulant par le bien qui est dans son cœur. Voyant que l'humanité refuse son projet, Dieu en lui-même, c'est une méditation de Saint Ignace, Dieu en lui-même se dit, mais qu'allons-nous faire? Et alors c'est l'intention, voilà, la générosité de Dieu invente l'incarnation. Nous allons venir au secours de l'homme. Le Fils décide de se faire homme. Il nous rejoint dans notre prison, là où nous étions enfermés, dans notre esclavage, il nous rejoint. Il se fait homme. Et il est né d'une femme, donc pleinement humain, mais dans l'Esprit Saint, pour manifester que son Père est Dieu, il est pleinement humain et pleinement Dieu. Mystère qui nous dépasse. Mais en même temps, dans cette incarnation, le premier mur est renversé. Donc voilà un homme en qui réside déjà, ou d'une manière potentielle, la plénitude de l'amour de Dieu. Dans un cœur humain, dans le cœur humain de Jésus, bientôt à sa passion, sa résurrection, résidera l'entièreté, la plénitude de l'amour de Dieu. Comment est-ce que Jésus va s'y prendre? C'est notre question, hein, pour nous sauver. Je voudrais d'abord dire que le salut, ce n'est pas quelque chose. Le salut, c'est Jésus lui-même qui l'a réalisé dans son existence humaine. Essayons d'accueillir cet ensemble, s'il vous plaît. Je reviens tout petit peu en arrière à Marie. Dans son cœur, il y avait cette prière ancienne dans l'Ancien Testament. On a besoin de toi, Seigneur, on a besoin d'un sauveur. Et dans le cœur de Marie, il y avait « Ah, si tu déchirais à nouveau les cieux et si tu nous rejoignais. » Il y a un oui dans le cœur de Marie qui correspond au oui de Dieu au projet qu'il a pour l'humanité, malgré notre refus. Il fallait susciter un oui dans l'humanité. Et c'est Marie qui l'a prononcé en notre nom à tous. Comment est-ce que Jésus va nous sauver? Simplement en prenant au sérieux sa propre existence humaine. Jésus, incarné, devenu homme et dans le devenir. Ce qu'il est, de droit, fils de Dieu, il va devoir le devenir. C'est-à-dire réaliser ce qui est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, là où nous avons échoué, on va dire comme ça, Jésus va tenter le coup. Alors, durant toute son existence, on voit que Jésus dit oui au Père, il dit oui à la vie que le Père veut pour lui, il dit oui à l'engendrement que le Père veut pour lui, son Fils, qui est désormais dans le monde. Tel est le projet de Dieu en train de se réaliser. Un homme, son Fils, est en train d'accueillir pleinement son engendrement comme Fils. Comment est-ce que Jésus va s'y prendre pour nous sauver? Est-ce qu'il va exercer la puissance qui est en lui, sa divinité, imposer l'Esprit Saint? Ce n'est pas possible, on a évoqué la liberté. Alors Jésus choisit les moyens pauvres, l'abaissement. Le baptême de Jésus, nous le voyons descendre encore plus bas, il se fait pécheur, lui qui ne l'est pas, avec nous qui sommes séparés de Dieu. Il accepte d'être totalement séparé du Père pour vivre, eh bien, une condition humaine telle que la nôtre. C'est-à-dire sans les prérogatives de sa puissance divine, sans les prérogatives de l'Esprit. Je pense qu'on a une difficulté à concevoir que Jésus n'a pas vécu sa vie avec d'autres capacités que celles qui nous sont données. Jésus s'abaisse. Vous voyez, toujours dans ce mouvement de renoncer à lui-même, il est en train de dire oui, de se désister pour accueillir l'amour du Père par le chemin lui-même. Le baptême annoncé la passion, oui, on avance à grandes enjambées, nous arriverons au moment essentiel de la passion de Jésus. Comment est-ce que cette mort sur la croix révèle l'amour de Dieu d'une part et nous sauve d'autre part? Voilà qui paraît souvent et légitimement bien complet, ce bien bien ténébreux. C'est simple finalement. Si on veut bien voir que sur la croix, Jésus est fils, comme on ne sera jamais fils. Il est totalement séparé du Père. Voilà, à cause du péché qu'il porte. Il ne le sent pas, comme on dirait aujourd'hui. Il ne le sent pas, mais ce qui pèse sur lui, c'est la totalité de la douleur, de la souffrance du monde. Est-il possible, dans cette condition, d'encore faire confiance à Dieu, au Père qui promet la vie? Jésus aurait pu descendre de la croix, il reste fixé, nous savons bien, non pas par les clous, mais par son amour du Père et son amour de l'humanité. Sommet donc de la filialité. On peut être davantage fils que Jésus quand il est sur la croix. Et il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et l'amour du Père est révélé par la même occasion. Car Jésus, me semble-t-il, ne meurt pas. Il tombe dans les bras, bien entendu, de son Père, qui l'engendre dans sa plénitude de fils. Il lui donne à ce moment-là tout son amour, tout ce que le Père est dans son cœur, l'Esprit Saint, tout cela, tout ce qu'il est, le Père lui donne. Jésus est engendré dans sa mort, et il est engendré à sa plénitude de fils. Et ce qui était le désir de Marie et de l'humanité, le ciel est déchiré. Le ciel, c'est où Dieu réside. Dieu réside dans le cœur de Jésus. Et son cœur est ouvert. Et son cœur reste ouvert. Le Père, la relation du Père et du Fils est éternisée dans ce sommet de l'échange d'amour entre Dieu. La puissance d'engendrement de l'Esprit Saint qui est dans le cœur de Jésus nous est donnée. Le sang et l'eau coule de son cœur, et Jésus nous donne dans sa mort ce qu'il reçoit, il nous souffle l'Esprit Saint. Jésus donc ressuscite, on le voit bien dans l'évangile de Saint-Jean, terminons tout doucement. Et ensemble, à cette fête de l'Ascension. Jésus vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité vers le Père, et il est ressuscité vers l'humanité. Il donne l'Esprit Saint, il se donne en même temps à chacun d'entre nous qui vont bien accueillir. Eh bien, cette mort et cette résurrection de Jésus tournée vers le Père, qui l'accueille, qui l'élève, qui le fait Seigneur, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est l'exaltation, comme on dit, la glorification de Jésus. Il est fait Seigneur, il est Dieu, voilà, avec l'habilité de l'Esprit. Et ça lui donne la possibilité de nous communiquer avec une force renouvelée, le don total, le don de l'Esprit Saint. C'est la parole que nous vivrons dans 10 jours. Alors pendant 10 jours, l'Église est revenue voilà, à une proposition de neuvaine. Rappelons-nous que nous sommes dans la condition des disciples qui, après l'ascension de Jésus, ont fait ce qu'il a demandé de faire, nous l'avons entendu, rester voilà, à Jérusalem, dans la pièce haute, le cénacle, jusqu'à ce que la force venue d'en haut, l'Esprit Saint, vous soit donnée. Alors vous serez des témoins. Et parmi les disciples, les apôtres, il y avait évidemment Marie, elle qui avait déjà, par sa prière humble, permis que le ciel s'ouvre, elle qui avait permis la naissance de son fils à la croix, là où son cœur s'est ouvert, eh bien Marie avec les disciples pour demander que ce qu'elle a vécu à l'Annonciation soit désormais donné aux disciples. Père, ton cœur est maintenant ouvert, le cœur de mon fils est ouvert, donne-nous l'Esprit Saint.